merci. Et il a dit, garde-moi caché en toi. Ah, je trouve ça tellement beau. J'aime vraiment, vraiment ça. Merci bien. Je vous souhaite un très bon après-midi. Bonsoir à chacun. Que les bénédictions de Dieu soient avec chacun de vous. Maintenant, ce soir, nous avons de nouveau le privilège d'ouvrir les pages de la parole, ici, afin d'en faire l'étude. J'aime les chants. J'aime beaucoup. J'ai souvent dit aux gens, « Quand vous arriverez au ciel, si vous ne me voyez pas quelque part autour du trône, allez là où on chante. C'est là que j'ai envie d'être. Et j'aime les beaux chants. » Mais au moment d'une réunion évangélique où des décisions doivent être prises, à mon avis, seulement un ou deux chants et aborder sans tarder la parole. Il faut consacrer ce temps à la parole. Voyez, en effet, c'est ça l'essentiel. L'essentiel. Aborder tout de suite la parole. Il y a quelqu'un qui était présent, des gens qui ne sont pas d'ici. Ils sont installés dans une roulotte juste là derrière, que je devais rencontrer plus tôt cet après-midi, juste avant la réunion. S'ils sont ici, je suis désolé d'avoir manqué ce rendez-vous. Je vous verrai tout de suite après la réunion. Et pardonnez-moi d'avoir dit que je serais ici. C'est que j'ai eu des imprévus qui m'ont empêché d'être ici à l'heure convenue. Maintenant, demain soir, nous présentons toujours une seule chose, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout, et ce qu'il veut que nous fassions dans sa volonté divine. Mais si c'est sa volonté divine, demain soir, c'est du sceau de Dieu que nous allons parler, si le Seigneur le veut. Et ce soir, nous avons annoncé, s'il a le privilège que nous le fassions, ou plutôt si nous avons le privilège de le faire pour lui, ce soir, nous voulons parler sur un des sujets les plus importants de l'heure, la marque de la bête. Et hier soir, nous étions dans les âges de l'Église, les sept âges de l'Église. Et ça a commencé avec l'âge de l'Église d'Éphèse, celui d'Éphèse. Et ça s'est terminé à l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier âge de l'Église. Et maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole, alors que nous parlons. Maintenant, pourrions-nous courber la tête un instant pour prier, juste avant d'ouvrir cette parole divine? Bienveillant Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons ce soir d'être en vie, et d'être ici, sur terre, ce soir, et d'avoir la santé et la force, et de pouvoir être assis dans la salle où la parole de Dieu est lue. Et nous prions, ô Rédempteur béni, comme tu es notre parent rédempteur, qui nous a lavés dans son sang et purifiés du péché, et qui nous présente maintenant au Père, irréprochable en Jésus-Christ. Puisses-tu venir ce soir et prendre la parole pour la révéler à nos cœurs. Que le Saint-Esprit saisisse la parole alors qu'elle sera enseignée, et qu'elle aille droit au but dans chaque cœur, dans mon cœur et dans le cœur des auditeurs. Que selon nos besoins, Père, elle nous soit apportée, et que personne ne s'offense de la parole. Et Père, si jamais je devais dire quelque chose qui soit contraire à ta conduite, que le Saint-Esprit ferme ma bouche. Mon seul désir est de savoir ce qu'est la vérité, pour ensuite y marcher. Bénis-nous tous maintenant, pardonne-nous nos péchés, alors que nous nous sommes rassemblés dans cette maison d'adoration. Et que nos péchés soient sous le sang, et nos esprits placés dans la bonne attitude, pour adorer maintenant. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'étais en train de me dire, ce petit bout de papier ici, j'avais noté plusieurs passages de l'Écriture pour, comme référence, à lire, pour commencer. Et maintenant, en m'avançant ici, il me semble que je n'ai plus envie d'en lire aucun. C'est ce qui arrive d'habitude, quatre ou cinq petits passages comme point de départ. Mais d'abord, je veux lire ou dire ceci. Je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire. Vous savez, peut-être tout comme je n'ai pas plus prévu ce que j'allais dire que vous. Vous voyez, rien du tout. Je ne fais que m'attendre à lui. Et à mesure que je le vois, je m'avance pour le prendre et je l'apporte. Alors parfois, ça peut être un peu dur à entendre parfois, mais c'est simplement comme ça que je l'ai reçu, pas autrement. Aussi, c'est seulement comme ça que je peux le donner, pas autrement. Maintenant, là-dessus, que je le dise encore ce soir, ceci n'est pas dirigé contre un individu ou la religion de quelqu'un. Vous voyez, pas du tout. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que nous sommes vraiment d'authentiques Américains, que tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Et nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. Seulement, dans chaque église, il y a une doctrine. Souvent, dans les organisations, les dénominations, ils ont un credo. Et ils s'en tiennent à ce credo. Ça, c'est notre credo. Peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo, parce qu'il est dans ses dénominations. Et ici, nous n'avons aucun autre credo que Christ, voilà le credo. Et aucune autre loi que l'amour. Aucun autre livre que la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Le monde est ma paroisse. Alors j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher, exactement comme je le vois. Et puis maintenant, en parlant plus particulièrement de ce côté vraiment rude, dur, tranchant de l'Évangile, mais vous savez, ici, c'est la maison de jugement. Le jugement commence par la, où ? Maison de Dieu. C'est ça, c'est ici que commence le jugement. Et il y a, si vous alliez au tribunal, ici, et qu'on devait vous faire un procès, ils ont un livre de droit, là-bas. Ils doivent lire le droit pour savoir pourquoi vous êtes jugé. Et c'est comme ça, dans la maison de Dieu. Nous devons le prendre dans la parole de Dieu. Et maintenant, souvent, dans ces choses, je veux bien m'assurer que vous compreniez ceci, là. C'est que moi, je pourrais avoir tort. Mon interprétation pourrait être fausse. Mais j'essaie de la lire aussi fidèlement que possible et de ne dire que ce qu'elle dit, de m'en tenir strictement à l'Écriture à ce qu'elle dit de dire. Et là, c'est vraiment dommage, ou peut-être que ce n'est pas la volonté du Seigneur, et peut-être que ça l'est, je ne sais pas. C'est que j'aimerais pouvoir passer semaine après semaine dans ce livre, rester ici et voir comment ça rejoint Daniel et l'Apocalypse, et faire le lien avec les prophètes. Et toute la parole de Dieu concorde entièrement. 66 livres écrits par de nombreux hommes, à des centaines d'années d'intervalle. Et pas un seul ne contredit l'autre. Pas un seul. Chacun d'eux est parfait. Il n'y a jamais eu une œuvre littéraire écrite comme elle, dans le monde entier. Voici 2000 ans qu'ils essayent de modifier le Notre Père, d'y rajouter un mot ou d'en ôter un, pour l'améliorer. On ne peut pas le faire. Voilà tout. Oh, il est parfait. C'est la parole de Dieu. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. Je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré, et que ceci le soit, et que cela le soit. Je crois qu'elle est entièrement inspirée. Elle est soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. Et si elle est inégale, alors nous ne savons pas quoi faire. Mais elle est la vérité tout entière. Je suis prêt à sacrifier ma vie, n'importe quand, pour ce qui est, ainsi dit le Seigneur, ici. Maintenant, là, on n'a que ces quelques soirs. Et en passant, nous aurons une réunion samedi soir. Nous allons continuer quand même faire. Certains de ceux de l'Église ont dit qu'ils allaient, puisque ce sera sale, pour venir à l'Église dimanche matin. Certains d'entre eux ont dit qu'ils resteraient samedi soir, après la réunion, et qu'ils aideraient à nettoyer l'Église pour que les gens n'aient pas à venir dimanche matin, ou qu'ils n'aient pas à travailler le dimanche pour préparer l'Église. Je ne suis pas pour l'observance stricte du sabbat, mais j'aime quand même respecter autant que je le peux l'adoration. Et là, bon, je pense que demain soir, j'annoncerai peut-être, si le Seigneur le veut, de quoi nous allons parler samedi soir. Maintenant, ce soir, c'est la marque de la bête. Et demain soir, le sceau de Dieu. Ce sont les deux plus, je pense, les deux sujets dont il est le plus important de parler en ce jour-ci. Car je crois réellement que nous vivons à l'époque de l'enquête de Dieu pour le jugement. Je crois que nous sommes en plein à l'époque où elle a lieu. Et nous ne voulons pas être extrémistes, nous ne voulons pas être fanatiques. Nous voulons simplement l'aborder aussi sainement que la Bible dit ici. Et ça, c'est parfait, bien sûr. Et maintenant, là-dessus, nous entendons tellement de gens aujourd'hui parler de la marque de la bête. Vous entendez ça depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce qu'elle... Où? Qui va la voir? Et si long, qu'est-ce qu'elle va leur faire? Est-ce qu'elle peut vous faire du mal? Est-ce qu'il y a du mal à ça? Eh bien, c'est ce que nous voulons voir par la parole de Dieu. D'abord, est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? Et ensuite, à quel âge va-t-elle se rapporter? Et qui seront les gens qui l'auront? Et qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous pourriez la voir sans le savoir? Et ainsi de suite. Ça, ce genre de questions-là. Alors, pour autant que je sache, ça, ce sont deux des sujets les plus importants auxquels je puisse penser dans la Bible. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Maintenant, pour commencer, j'ai un passage de l'Écriture ici pour montrer si, ou juste noter, juste pour que je puisse le prendre, et c'est dans l'Évangile. Pour commencer, voyons un peu ce qu'est la marque de la bête. Et est-ce que c'est dangereux d'avoir cette marque? Est-ce que c'est dangereux? Maintenant, dans Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 9, c'est le message du troisième ange. Maintenant, n'importe quel bibliste, je vois frère Stanley ici et deux ou trois autres prédicateurs assis avec nous. Et hier soir, il y avait ici des frères du séminaire baptiste de Louisville. Et il y en a peut-être ce soir, je ne sais pas. Il y a probablement des méthodistes, des baptistes, des catholiques et peut-être des juifs orthodoxes, je ne sais pas. Mais ceci n'est pas destiné à blesser qui que ce soit, pas du tout. Et c'est simplement comme la Bible est écrite, la lire, et que vous la regardiez vous-même. Et abordons-la de façon aussi raisonnable que nous le pouvons, dans la crainte de Dieu, en sachant qu'il nous jugera pour notre parole. Nos paroles vont soit nous bénir, soit nous condamner au jour du jugement. Et si j'ai le sentiment que je sais quelque chose et que je le retiens, alors Dieu me le fera payer au jour du jugement. Et des âmes lèveraient la main en disant, « Frère Branham, si seulement vous nous l'aviez dit, nous n'aurions pas été dans cet état aujourd'hui. Je veux me tenir comme Paul il y a bien longtemps. Je suis libre du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » C'est vrai, exactement comme je le vois. Et si j'ai tort, alors que Dieu me pardonne. Ces choses ne viennent jamais. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Je n'ai jamais fréquenté aucune école. Je n'ai jamais pris ce que quelqu'un d'autre en disait. Je suis allé directement à la Bible, en prière. Et ceci est divinement révélé par le Saint-Esprit, le même ange de Dieu qui me conduit à voir des visions et toutes ces choses comme ça, et la guérison des malades. Et par là, vous pouvez juger si c'est la vérité ou non. Bon, c'est maintenant le message du troisième ange au monde. Et vous savez ce qu'est le message du troisième ange. Il est apporté maintenant en ce jour. C'est maintenant le vol du message du troisième ange, si vous êtes un lecteur de la Bible. Il y a trois malheurs qui le suivaient. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant. Très bien, nous sommes au bout du chemin. Maintenant, pensons à ceci, juste avant de lire l'Écriture. Positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais regardez, prenons-le d'après l'histoire. Les premiers 2000 ans, l'ordre du monde est parvenu à un sommet. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça? Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi ça. 1954. Et l'Évangile, a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus. Sinon, nulle chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. Donc, nous sommes au temps de la fin. Et ensuite, le septième, en type, c'est le millénium, 1000 ans. Comme Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est 1000 ans sur terre. Deux pierres, voyez? Bon, et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. Et au septième millier, Dieu a pris son repos. Et il s'est reposé le septième. Et maintenant, un type du millénium, de l'Église, qui va vivre ici sur terre, ici même, dans des corps, pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. Ce grand âge d'or qui arrive maintenant, oh, qu'il vienne! J'aime ce chant. La terre soupire et crie pour que vienne ce beau jour de délivrance. Quand Jésus reviendra sur cette terre, j'aime ça. Péché, tristesse, douleur et mort de ce monde de ténèbres ne seront plus dans un glorieux règne de 1000 ans de paix avec Jésus. La Bible dit, ils gouvernèrent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, un millénium. Bon, ce message du troisième ange, juste avant la venue du Seigneur, quand le sceau et la marque étaient apposés. Là, il va y avoir un grand rassemblement. Un rassemblement. Là-bas, dans l'Ouest, quand on y va, je l'ai fait depuis que j'étais garçon. J'y allais pour le rassemblement du printemps et pour le rassemblement d'automne. J'allais dans les montagnes rabattre le bétail. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on peut trouver, en fouillant partout, alors on retranche toutes celles qui ne sont pas, celles qui ne nous appartiennent pas. Les nôtres portent une marque. Et elles sont marquées au fer rouge. Et si jamais vous... Est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? C'est vraiment impressionnant d'observer le marquage du bétail. Avant, j'avais de la peine pour la vache. Et c'est à vous soulever le cœur de voir le gâchis quand on se met à marquer le bétail. Ma tâche, c'était de chauffer le fer rouge, de tenir le fer. Et on l'applique à un jeune taureau qui était tendu là, les pattes attachées. Et on lui met cette marque, et le poil, et la chair qui grille. On met un peu de goudron dessus, et on le relâche. Et comme il détale au triple galop. Mais regardez, il est marqué. Et c'est ce que Dieu nous fait. Vous devez vous retrouver à l'autel, pieds et poings liés, de temps en temps. Mes frères, quand le Saint-Esprit vous marque une fois de son fer, vous allez peut-être courir et crier, mais vous êtes marqué. C'est vrai. Vous êtes là. Quand le patron arrive, il sait à qui vous êtes. Mais, oh, pour ce jeune animal égaré, celui qui est condamné à être rejeté parmi les voleurs de bétail. Bon, le temps du marquage. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que deux cavaliers. Ce sera Dieu et Satan. Satan prendra les siens et Dieu prendra les siens. Ce soir, nous allons voir qui porte la marque de Satan. Et demain soir, nous allons voir qui porte la marque de Dieu, selon la parole de Dieu. Maintenant, voici le message de l'ange, le verset 9 du chapitre 14. Je vais lire quelques-uns de ces passages de l'Écriture, ici, que j'ai notés. Et l'ange, et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » C'est sûr, on ne veut rien avoir à faire avec ça. Regardez, et la fumée de leur tourment monta au siècle des siècles, et ils n'ont de paix ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, j'en suis sûr. Oui, écoutez le verset suivant, pendant que je le regarde. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont foi en Jésus-Christ. Maintenant, au chapitre 15 et au verset 2, écoutez là, au chapitre 15 et au verset 2. Bon, nous avons lu le chapitre 14 au verset 9. Maintenant, le chapitre 15 au verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et des ulcères malins, douloureux, frappèrent les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. Au chapitre 16 et au verset 2, et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de la colère de l'impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Un instant, excusez-moi, j'ai dû en tourner deux à la fois. Très bien, bon, au chapitre 20 et au verset 4. Très bien, voilà. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et devant les saints anges. Voilà ce qu'en dit le Seigneur. Maintenant, nous allons commencer. Prenez maintenant dans vos Bibles le chapitre 13 d'Apocalypse et nous allons commencer dans quelques instants. Or, ceci, c'est vraiment essentiel. Écoutez bien maintenant. D'abord, nous voulons reprendre notre sujet d'hier soir. Hier soir, nous avions pris les âges de l'Église. Alors que nous avons vu Jésus qui se tenait dans son Église, il parlait comme la voix de grandes eaux, et il avait les cheveux comme de la laine, les yeux comme des flammes de feu. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision, et c'est en symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Et nous avons vu que ces flammes, semblables à des épées, une épée sortait de sa bouche, et une épée à double tranchant. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'Église, et qu'elle coupait jusqu'à la moelle des os, et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle, et l'Église portait un vêtement blanc. Et remarquez, c'était une femme. Sur la poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa honte, et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui le retenait sur sa poitrine. Le blanc, ça représentait la justice de Christ, et la ceinture d'or représentait l'Évangile. La prédication de l'Évangile amène le Saint-Esprit sur l'Église, la justice de Christ. Elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de corde. Et puis, il se tenait là, les pieds semblables à de l'airain, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. L'airain représente le jugement divin. Et Dieu, pour satisfaire à son grand serment qu'il avait prêté, il a envoyé Christ, et Christ est acquitté du jugement divin. Alors l'Église est basée sur le jugement divin, Christ qui a pris sa place. Quel beau tableau! Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et puis, nous avons vu là le premier âge de l'Église, ce qu'ils avaient. Combien étaient ici hier soir? Je peux voir votre main? D'accord, c'est bien. Le premier âge de l'Église, nous avons vu dans l'âge de l'Église d'Éphèse, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Et ils baptisaient les gens dans l'eau. Et ils avaient toutes sortes de signes et de prodiges devaient accompagner le croyant. Et comment, dans chacun des âges de l'Église, ça a commencé à se dissiper. Le deuxième groupe, le troisième groupe, ensuite c'est passé par l'âge des ténèbres. Et ils se sont retrouvés avec un faux nom, avec un faux baptême, pour ce qui est de l'eau comme pour ce qui est du Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont continué dans l'âge suivant. Ils ont reçu un peu de lumière. Et puis une porte a été mise à ouvrir entre l'âge de l'église de Philadelphie et celui de Laodicée. Et puis, celui de Laodicée a tiédi et a complètement dévié au point que Dieu l'a vomi de sa bouche. C'est vrai, c'est l'Écriture. Et tout historien et tout croyant orthodoxe sait que ces sept âges de l'Église, ou sept chandeliers d'or, comme dit la Bible, étaient les sept âges de l'Église. Comme l'Ancien Testament est un type du Nouveau, ici, et comme tout ça a dévié. Mais il doit y avoir un grand ébranlement et un réveil juste avant la fin de la dispensation des nations, avant que cela retourne aux Juifs. Rappelez-vous, les nations ont seulement une période de temps limitée pour la grâce. La Bible dit qu'on foulerait aux pieds les murs de Jérusalem. Jésus l'a dit, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. C'est vrai, elle a un moment précisément fixé où elle doit se terminer. Et nous avons vu les choses qu'il faisait à l'époque. Nous remarquons les signes et les prodiges qui les accompagnaient. Comment Christ leur avait dit combien c'était merveilleux et comment ils étaient. Ensuite, la lumière a commencé à baisser de plus en plus. Elle s'est éteinte. Et juste à la fin, une autre porte ouverte devait être mise là pour l'Église. Maintenant, arrêtons-nous ici avant d'aborder ça. Remarquez, prenons une autre prophétie qui me vient à l'esprit. Le prophète a dit, « Il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. » Est-ce qu'on m'entend trop fort? Si c'est possible, vous pouvez régler ça un peu. Je sais que ça résonne. Et c'est pour ça que j'élève un peu la voix, pour que ceux qui sont au fond soient sûrs de l'entendre. Parce que ceci, c'est très important. Et il y aura une époque, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. Autrement dit, il fera jour, mais ce sera nuageux. Vous voyez, un jour nuageux. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel beau tableau! Là, quand l'aube s'est levée sur ce jour nuageux, ça veut dire qu'il y aura des guerres et des problèmes et des hauts et des bas et des dispensations et des églises et des ismes et tout. Il ne fera ni clair ni sombre. Ce sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile, mais où on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. Vous savez ce que je veux dire. Ils diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela là-bas, à la Pentecôte, qu'ils ont fait cela dans l'Église primitive, qu'ils avaient ces signes et prodiges, mais notre Église n'enseigne pas cela. Vous voyez, c'est nuageux, ni nuit, ni jour. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à sa seconde venue, et nous savons qu'il vient. La Bible dit, il ne fera ni clair, ni sombre. On ne peut pas appeler ça le jour, et on ne peut pas l'appeler la nuit. Mais remarquez, vers le soir, la lumière paraîtra, vers le soir. Quand les gens de l'Orient, ce livre est un livre de l'Orient, la Bible. Au début, quand la lumière venait de poindre sur l'église primitive, à Éphèse, eh bien, nous nous rappelons et nous avons vu ce qui est arrivé là. La lumière de Dieu a produit Jésus-Christ par le premier déversement du Saint-Esprit. C'est ainsi que la lumière a été donnée au monde entier et que la Bible a été écrite. Pas vrai? Or, il a promis pour le monde occidental, le soleil se lève à l'est, au début de la dispensation de la grâce. Et maintenant, le soleil se couche à l'ouest, sur les occidentaux. Nous sommes les occidentaux. Et il a promis qu'il y aura un réveil et que la lumière paraîtrait au temps du soir. Nous y sommes. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ça. Les hommes aiment les mauvaises actions plus qu'ils n'aiment les bonnes actions. Mais il va bientôt disparaître à l'horizon, là-bas. Et le peu de lumière que nous avons, accrochons-nous-y. Regardez, c'est le même soleil qui s'est levé là-bas sur les Juifs, qui se couche ici sur ceux des nations. Et tout au long de l'âge ici, tout au long de ces 2000 ans, ils ont eu ceci et cela. et des organisations et des dispensations et ceci et cela. Et les gens ne savent pas où ils en sont. Mais la Bible promet, Dieu a promis par le prophète que vers le soir, la lumière paraîtrait. La lumière paraîtra au temps du soir. Je crois que nous y sommes. Le soleil se couche. Toute la nature soupire, crie pour que ce jour vienne. Remarquez, maintenant, nous voyons que ce qu'ils avaient là, au tout premier âge de l'Église, ils ont reçu une doctrine bizarre. Bientôt, c'était simplement devenu des œuvres. Il a dit, « Tu es les œuvres des Nicolaïtes ». Je me demande ce qu'étaient les Nicolaïtes. J'ai fait des recherches et cherché dans l'histoire, encore et encore et encore, au moyen des meilleurs commentaires que j'ai pu trouver. Et personne ne sait, à moins que ce soit une doctrine commencée par un homme, Nicolas, dont on prétend qu'il était un des apôtres qui est un peu dévié. Il a établi un credo ou quelque chose comme ça. Et de là ont commencé les Nicolaïtes. C'était des œuvres en premier. Et ce qui était des œuvres à Éphèse, dans l'âge de l'Église suivant, c'est devenu une doctrine. Et ensuite, c'est passé à l'âge des ténèbres de la persécution. Or, la même doctrine nicolaïte qui a commencé ici dans la première Église, après les trois ou quatre premiers groupes d'apôtres, elle est devenue une œuvre. Ils se sont mis à penser, « Eh bien, ce doit être ceci. » Or, vous savez tous comment c'est arrivé, et vous qui lisez la Bible. Bon, ça a commencé vers l'an 600 de notre ère, et, ou 306, ce qu'ils appellent la conversion de Constantin. Il ne s'est jamais converti. Un type qui fait les choses sales que cet homme a faites n'est pas converti. C'est vrai. La seule chose, un tant soit peu religieuse qu'il ait jamais faite, c'est qu'il a posé une croix sur l'église Sainte-Sophie. En voilà une bonne raison d'aller au ciel. Vous ne trouvez pas? Bien. Il a dit aux chrétiens que s'ils gagnaient cette guerre, ils se feraient chrétiens. Et ils ont prié. Et il y est allé et il a gagné la guerre. Ou il a gagné la bataille. Et il est revenu. Et il a dit, « Eh bien, je vais me joindre à l'église. » Un très beau type du membre d'église tiède d'aujourd'hui. C'est vrai. Il a érigé une croix sur l'église. Après sa mort, il avait deux fils, trois fils, Constantin, Constance et Constantinople, ce qui a commencé à former l'Orient et l'Occident de Rome. Ils se sont séparés. Et là, ensuite, c'est devenu l'Empire ottoman, vers cette époque-là. Et puis, vers le deuxième groupe, ou le troisième, quatrième groupe d'apôtres. Et puis, bien vite, ils ont commencé à se faire des histoires entre eux. Et ils se sont séparés. Un petit isthme. Tout le monde, prenez une église. Là, quand cette église méthodiste de Wesley était en pleine puissance, elle l'avait, la puissance. Quand John Wesley était ici, celle de Luther l'avait, à son époque, et chacune d'elles. Mais une fois que le fondateur est mort, c'est là qu'il dévie. Quand le Seigneur est apparu pour la première fois là-bas, quand il voulait que je commence, que je fasse une organisation avec cela, et ainsi de suite. Je suis venu ici, et j'ai vu que Dwight Moody, le grand fondateur de l'Institut biblique Moody, et je me suis dit, si Dwight Moody pouvait voir cet Institut biblique, ce que cet homme a défendu, et ce qu'ils font maintenant, eh bien, je me suis dit, regarde un peu, là, regarde, et si Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, ou Finney, n'importe lequel d'entre eux, s'ils pouvaient ressusciter aujourd'hui et voir où leur église en est. Oh là là, vous voyez, le groupe des premiers, quand le fondateur se tient là, il possède la vérité. Regardez le docteur Dowie à Zion City. Oh, aujourd'hui, il se moque ouvertement de la guérison divine, alors que cette ville était fondée là-dessus. Mais quand Dowie est mort, alors sont arrivés Blake, John Lake et tout cela. Alors, bien vite, maintenant, ça aboutit au point où les assemblées de Dieu s'en sont mêlées, et tout un tas de choses formalistes, et tout. Et là, l'Église est finie, rétrograde, et dans un état horrible. Alors j'ai trouvé ceci, la Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation, que je te serve de tout mon cœur, pendant que je suis là, en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme quand je serai parti. Tu feras que quelqu'un prenne la place. C'est tout. N'essayez pas de construire sur autre chose. Vous ne pouvez pas monter un feu sur le même terrain. Ceux d'Israël devaient cheminer sans arrêt. Quand ils s'arrêtaient, ils rétrogradaient. Il fallait qu'il continue à avancer chaque soir. Il montait un nouveau feu chaque soir. Il continuait simplement à avancer. Et c'est ce que nous devons faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour l'époque de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour l'époque de Wesley. Ce que ceux de la sainteté avaient, c'était bien. C'était pour leur époque à eux. Nous vivons à une autre époque. Maintenant, nous avançons. Et s'il devait y avoir un jour après nous, il viendra de la même manière. Mais marchons dans la lumière, pendant que la lumière est ici. Bon. Et je remarque que là, cette doctrine est devenue bien vite qu'elle s'est divisée en un tas d'ismes. Ensuite, les Romains se sont convertis. Maintenant, l'Empire romain, depuis l'époque où Rome a pris la relève et a repris le monde païen aux Grecs, après la chute d'Alexandre le Grand, a été la nation prédominante dans le monde. Le peuple romain, l'âge des nations. Daniel l'a dit dans la vision. Nous allons y venir dans quelques minutes. Mais elle a toujours été la puissance qui domine sur le monde, celle de Rome. Et puis là, nous voyons qu'ils ont organisé une église. Un groupe de gens se sont rassemblés vers l'an 606 et se sont appelés les premiers pères, les pères de l'église. Des groupes d'hommes se sont rassemblés. Ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils devaient faire. Ils ont fondé une organisation. Et je vais vous dire ici, mes chers amis chrétiens, protestants aussi bien que catholiques. Et maintenant, je suppose que j'ai des amis catholiques assis ici. Je ne dis pas ceci pour vous blesser. En effet, attendez seulement quelques instants. Et on inclura le Branham Tabernacle là-dedans aussi. Vous voyez, juste un instant. Nous devons seulement prêcher l'Évangile comme il est exposé ici. Peu importe où, Jean a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre, que les éclats volent où ils veulent. C'est vrai, il doit abattre les arbres et tout. Mais regardez là-bas, ils ont organisé la première église, et ils se sont rassemblés, ils ont organisé la première église qui s'appelait l'église universelle, ou l'église catholique à Rome. Et le catholique dit qu'il est l'église mère. Et c'est exactement la vérité. Elle est l'église mère de l'organisation. Justement, c'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'une église a jamais été organisée. Il n'y en avait jamais eu depuis l'aube du temps. Au jour d'Israël, ils n'étaient pas une organisation. Ils étaient une race, pas une organisation. Et Jésus-Christ n'a jamais organisé une église. Aucun des apôtres n'a jamais organisé une église. Et jamais, à aucun moment, jusqu'à 3 ou 4 générations après eux, ils n'ont organisé une église. Je veux que vous m'apportiez l'histoire et que vous mettiez le doigt sur « Montrez-moi où c'est ». Et j'ai lu Joseph et tous les historiens les plus éminents que nous ayons dans le monde aujourd'hui, à ma connaissance, parce qu'il faut que je sois sûr. Je fais cette déclaration devant des milliers de gens. On doit pouvoir appuyer et prouver ce qu'on avance. C'est vrai. Il n'y a jamais eu une organisation. Et Saint-Pierre n'a jamais fondé l'Église catholique. Je veux une preuve historique ou un passage de l'Écriture. Saint-Pierre était un homme marié. Vous dites qu'il était pape. Il n'aurait pas pu être pape. Pierre était un homme marié. La Bible dit que la mère de sa femme était couchée, ayant la fièvre, et que Jésus l'a guérie. Et pour autant que je sache, Saint-Pierre n'est jamais allé à Rome. Il n'y a rien dans l'histoire qui montre qu'il soit allé à Rome. Et c'est une erreur. Mais ils ont organisé, ils ont fondé une église appelée l'Église universelle. C'est là qu'ils ont composé une prière universelle. Ils avaient l'harmonie parfaite. Il fallait que tous soient ensemble, que tous disent la même chose. Ils récitaient la même prière. Et ils ont fabriqué plein d'écritures qu'ils ont tirées de la Bible pour beaucoup d'entre elles. Et les autres, ils les ont inventées. Il n'y a pas une seule fois où le purgatoire soit mentionné dans tous les livres sacrés de la Bible. Pas de « Je vous salue Marie », ni rien de semblable. C'est toujours le contraire. Ça s'y oppose, partout dans l'écriture. Ça ne s'est jamais vu, à aucun moment. Et si vous trouvez un seul endroit, vous avez tout loisir de venir demain soir me corriger. Ce n'est pas là, nulle part. Amenez votre prêtre ou votre pasteur. Il n'y a aucun endroit dans l'Écriture où l'on soit jamais fait mention. Le seul petit livre, celui des Maccabées, qui a été ajouté à ceci, ce n'est pas inspiré. Les choses qui ont été ajoutées à ceci ou ôtées de ceci, Cette Bible-ci est la seule. Là, elle a été reconnue par les premiers fondateurs ou par n'importe lequel des premiers historiens de l'Église ou de tout temps par les Juifs orthodoxes et n'ont jamais rien reconnu d'autre que cette Bible que nous avons aujourd'hui. Bon, alors là-dessus, écoutez bien maintenant. Vous trouvez que les catholiques sont en train de se faire sonner, là? Attendez seulement, vous voyez? Bon, alors, ils ont organisé l'Église catholique. Ils ont lancé une persécution, c'est-à-dire qu'il fallait faire que tout le monde, partout, l'Église et l'État s'unissent ensemble. Ils ont fait passer ça de la Rome païenne à la Rome papale. Autrement dit, à partir d'une superstition païenne, ils ont adopté le christianisme sous leur forme à eux. Voyez ? Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi des hommes se tiendraient là, à prier sans rien devant eux. Ils étaient des païens, alors ils ont simplement enlevé Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre, un genre de statue adorée. Bon, et ils adoraient devant ça. Ils ont composé une prière universelle. Ils l'ont récitée en latin pour qu'elle ne faillisse jamais, et ainsi de suite, pour qu'ils récitent toujours la même. Et on ne peut pas discuter ou argumenter avec un prêtre catholique, ni avec aucun catholique, en se basant sur la Bible. L'un d'eux s'est assis, un jeune prêtre, là. Il s'est assis chez moi il n'y a pas longtemps. Il disait, « Vous, les protestants, vous lisez la Bible et vous restez chez vous. Nous, les catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. » J'ai dit, « Oui, mais quoi ? » Voilà. Maintenant, répondez-moi à ça. Il a dit, « Dieu est dans son église. » J'ai dit, « Il, pas le moindre passage de l'Écriture ne dit ça. » J'ai dit, « Dieu est dans sa parole. » Il a dit, « Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. » Il a dit, « Ne pensez-vous pas que tout un groupe d'hommes qui tiennent conseil ensemble font plus autorité qu'un homme seul ?» J'ai dit, « Non. Si cet homme qui est seul est dans la volonté de Dieu, il a la vérité. » Ça a toujours été prouvé. Comme avec Josaphat et Michée, les leçons qu'on vient de voir l'autre jour, dimanche dernier, quand Michée est allé là-bas, et 400 prédicateurs se tenaient là, en disant, « Monte, le Seigneur est avec toi, monte, le Seigneur est avec toi. » Josaphat a dit, « N'y en a-t-il pas encore un, ici ?» Il a dit, « Il y a Michée, mais je le hais. » Il a dit, « Écoutons ce qu'il a à dire. » Il a dit, « Vas-y, monte, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis. » Il a dit, « Je te l'avais bien dit, hein ?» Voyez. Donc, qui avait raison, là, alors qu'il y avait 400 prophètes formés devant cet homme? Et pourtant, c'est une espèce d'exalté en guenille qui se tenait là, qui avait la vérité. C'est ça, c'est vrai, il l'avait. Il avait la vérité, il s'est fait gifler et frapper à cause d'elle, mais il avait la vérité. Donc, peu importe combien disent ceci ou combien disent cela, ce qui compte, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, vous devrez vous tenir là, tout seul, bien des fois, si vous vous tenez sur la parole de Dieu. Mais assurez-vous bien de vous en tenir à ce que le Seigneur a dit. Donc, ils avaient organisé cette église, ce grand corps, l'église catholique. D'ailleurs, la religion qui prédomine sur toutes les autres aujourd'hui dans le domaine chrétien, c'est le catholicisme. Mais ils disent, vous n'avez pas besoin, on leur dit, où allez-vous chercher qu'il ne faut pas manger de viande? Où allez-vous chercher que le prêtre ne doit pas se marier? Où allez-vous chercher ça? Ils disent, nous n'enseignons pas la Bible. Ils disent, c'est l'Église qui est la voie. Peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que dit l'Église. Mais Dieu a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Là, vous devez faire votre choix. Bon, ce nicolaïsme était devenu une doctrine et ensuite c'est devenu une persécution. Maintenant, le voici qui apparaît ici dans les derniers jours. Ensuite, ça a été l'oasis, tout au long de l'âge des ténèbres et de la persécution. Ensuite, il y a eu une petite baisse avec la première réforme, qui était Martin Luther. Martin Luther a protesté contre l'Église catholique. En effet, il est allé là, et il a pris ce pain de communion. Et il disait, « Ceci est le corps de Christ. » Il a dit, « Ce n'est pas le corps de Christ, ce sont des hosties, rien de plus. » Ils croient que c'est une sainte Eucharistie. Et une sainte Eucharistie, ça veut dire Saint-Esprit. Et quand vous la prenez, vous faites entrer le Saint-Esprit dans votre corps. Et ça, c'est faux. Le Saint-Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. Pas le jour de la Pentecôte, un prêtre s'est avancé et leur a distribué la sainte Eucharistie, leur a mis une hostie sur la langue. Pas non plus, un prédicateur s'est avancé, il les a aspergés d'eau Elle leur a serré la main. Non, monsieur. Mais il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà l'Écriture. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est arrivé dans cette église. Et voilà ce qui est arrivé quand la lumière brille aujourd'hui. Voilà où la lumière a percé à l'époque. Et c'est là que la lumière perce maintenant. Maintenant, s'il y a des questions sur des passages de l'Écriture que je cite, vous n'avez qu'à mettre ça sur « Je vous donnerai la référence, vous voyez, dans l'Écriture ». Très bien. Bien sûr, quand on a juste un peu de temps comme ceci, d'habitude, quand nous étudions cela à fond, nous prenons des semaines et des mois. Tous les passages de l'Écriture, nous les passons en revue. Nous faisons suivre les gens dans leur Bible. Mais s'il y a des questions, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Très bien. Ensuite, Martin Luther. Ensuite, après Martin Luther, est venu John Wesley. Martin Luther s'est retrouvé avec le catéchisme, toutes sortes de choses. Il s'est retrouvé avec un baptême. Il s'est retrouvé à donner un baptême trinitaire, ce qui n'a jamais été enseigné dans la Bible. Jamais été enseigné dans la Bible. Jamais personne n'a été baptisé d'un baptême trithéiste dans la Bible. Si c'est le cas, venez me montrer où. Ça n'y est pas. La seule façon dont ils ont été mandatés d'être baptisés, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples », a-t-il dit à l'époque, « et baptisez-les dans le nom, pas au nom, dans le nom Père, Fils, Saint-Esprit ». Et là-dessus, les disciples se sont mis à les baptiser tous au nom de Jésus-Christ. Et la commission, c'était que si quelqu'un avait été baptisé d'une autre façon, il devait venir se faire rebaptiser avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et là, l'Église catholique est arrivée. Trouvez un endroit de la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le vide, n'est-ce pas? Samedi soir, ce sera la soirée des questions. J'y viendrai. On mettra ça au clair. Très bien. Très bien. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut me montrer un endroit où une seule personne ait jamais été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je quitterai la chair et je dirais que je suis un hypocrite. Si quelqu'un avait été baptisé d'une autre façon, il devait venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Exactement. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Maintenant, regardez l'Écriture. Ne dites pas, « Eh bien, Frère Branham l'a dit. » Regardez l'Écriture, là. Prenez votre concordance et vérifiez-le. Et dès que, remarquez, chacun de ces âges de l'Église avait son nom, jusqu'à ce qu'on en arrive à cet âge de l'Église ténébreux. Et regardez, le type de ça, là-bas, dans l'Église orthodoxe, l'époque de l'âge le plus sombre pour les Juifs, c'était quand Akab, dans la vague de prospérité après le grand roi qui l'avait précédé. Avant ça, Israël était en plein essor. Et Akab est venu, un croyant frontalier, un état de tiédeur. Il est allé épouser cette petite princesse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et il a fait entrer l'idolâtrie en Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Ce très beau type, quand le protestantisme a épousé le romanisme, ils ont ramené l'idolâtrie dans le christianisme, à l'âge des ténèbres. Exact, exactement, géographiquement. Maintenant, regardez bien comment ça se retrouve de ce côté-ci. Ici, vous avez quoi? Un substitut du Saint-Esprit, une hostie. Un substitut du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont tout remplacé. Je peux prendre ça et le prouver par l'Écriture. Un substitut après l'autre. Et Martin Luther était d'accord avec ça. John Wesley a continué sans hésiter avec la même chose. Il était d'accord avec ça. Jamais personne dans la Bible n'a jamais été aspergé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Absolument aucune commission ni aucun ordre de le faire. Mais vous le permettez, c'est vrai, vous le permettez. Ils sortent, ils prennent cette petite salière et ils vous aspergent avec ça. Pourquoi? C'est l'Église catholique qui a commencé ça. Et vous vous y pliez. C'est ça. Un homme me disait l'autre jour, il disait, vous n'êtes pas un... Vous êtes seulement un non-catholique. Vous êtes... J'ai dit, non frère, je suis un protestant. Je proteste contre ça. C'est vrai. En tant que ministre de l'Évangile, avec les enfants de Dieu ici, comme candidat au ciel, et comme je dois leur prêcher et me tenir devant eux en tant qu'enseignant, avec des signes et des prodiges, je serais un hypocrite si je ne prenais pas position pour ce qui est vrai. J'ai dit, oui monsieur, je prendrai position au prix de ma vie. Je le ferai. Je n'enseignerai que la Bible. Et je suis prêt, n'importe quand, à la discuter avec n'importe qui. Vous voyez, qu'il soit le pape de Rome ou archevêque ou quoi que ce soit. Vous voyez, oui monsieur, c'est vrai. Si j'ai tort, venez me le montrer. Or, je n'ai pas tort, parce que je cite l'Écriture. Vous, je ne me servirai pas de votre manuel. Voici le manuel, ici même. Bon, alors, vous remarquez, ils ont commencé à adopter tout ce formalisme. Or, dans les derniers jours, il viendra une persécution. Maintenant, nous en sommes arrivés autour du chapitre 13 d'Apocalypse. Maintenant, pour commencer, là, si vous remarquez, d'un bout à l'autre du chapitre, ici, il est dit, « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sinaï. » Non, excusez-moi, je suis au mauvais verset, au mauvais chapitre, le chapitre 14. Chapitre 13. Je me tins sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Qu'est-ce que le blasphème? C'est se moquer, ridiculiser, parler de. Maintenant, regardez bien, elle avait 7 têtes. Tête, 10 cornes. Et regardez bien, elle est montée de la mer. Or, Apocalypse 17, pour vous qui notez, 17:15, dit que les eaux représentent la masse et les foules de gens. De même, cette bête représente une puissance impie. Une bête de proie monta du milieu des gens et elle se tint sur les sables de la mer. Et je vis la bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient ceux d'un ours. Sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon. Nous avons 2 choses à considérer maintenant. Regardez bien cette bête. Elle contenait 4 personnages différents. Et si vous prenez Daniel 7, vous qui notez, Daniel 7, Daniel a eu la même vision. 800 ans avant ceci, il a eu la vision. Il a vu ces animaux distincts l'un de l'autre au commencement du règne des nations. Et les voici, Jean les voit. Et à la fin du règne des nations, ces 4 animaux, tous représentés en un seul. Ces mêmes vieux démons, ces démons qui ont possédé chaque royaume des Romains, tout le long, et des Grecs, et ainsi de suite, tout le long de la dispensation des nations, sont arrivés là, et se sont tous rejoints en une seule bête. Nous allons la trouver, tout de suite, voir qui c'est. C'est ça. Tous ceux-là, le léopard, le lion, tout ça, le dragon, combien savent ce qu'est le dragon? Le dragon représente Rome. Oui, lisons ça. Il y a comme une question dans votre esprit. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 12. Un petit instant ici. Regardons ici. Apocalypse 12. Maintenant, regardez. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme. Que représente une femme? L'Église. C'est l'épouse ici. C'est l'Église, la vraie Église. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Regardez, la lune sous ses... Le soleil à sa tête, la lune sous ses pieds. Le soleil, c'était la dispensation de la grâce. Et la lune, c'était la dispensation de la loi. La femme, c'était l'Église orthodoxe. Et elle se tenait au-dessus de la loi. La loi passait, parce que la loi était une ombre des bonnes choses à venir. Pas vrai? La lune n'est qu'une ombre du soleil, alors qu'il se reflète sur la lune. Pas vrai? C'est ce qui donne la lune. Et la loi était sous ses pieds. Elle avait déjà vécu ce jour-là. Et remarquez comment elle était habillée, là, maintenant. Et sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'Église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres, vous voyez? Elle était enceinte, elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. C'était l'Église orthodoxe. Regardez bien. un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes. Vous voyez, gardez ce sept à l'esprit maintenant. Sept têtes, toujours. Sept têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Bon, et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Regardez, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'Église orthodoxe qui se tenait là, le soleil qui resplendissait, la doctrine des 12 apôtres. Bien, avec la lune sous ses pieds, la loi, l'ombre des choses à venir, la lumière de l'Évangile resplendit maintenant. La loi disparut quand le soleil apparut. Elle était dans les douleurs de l'enfantement, et elle enfanta un fils, qui était Jésus-Christ, et il fut enlevé vers Dieu. Mais lorsque, voici, lorsque le dragon, qui était le diable, vit que la femme allait enfanter, il se tint tout près d'elle, afin de dévorer son enfant dès qu'il naîtrait. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Et Dieu les a bien joués. Il l'a emmené en Égypte et l'a caché comme il l'avait fait pour Moïse, de la même manière. Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Ah, pas en Russie, à Rome. Et il est dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Le dragon rouge, pas la Russie. J'entends de grands prédicateurs dire, les Russes sont l'Antichrist. Mais voyons, les Russes n'ont rien à voir avec l'Antichrist. Ça, c'est le communisme. La fausseté du protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. La raison pour laquelle la Russie les a chassés de là, c'est qu'ils avaient tout l'argent. Et ils faisaient dire toutes les prières aux saints. Alors ils avaient fait construire les plus grands édifices. Ils avaient tout l'argent du peuple. Ils ramassaient ça, comme ça. Et ils ont vu qu'ils ne vivaient pas différemment et qu'ils n'étaient pas différents du reste du monde. Alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Là, si. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elles reçoivent exactement ce qui lui revenait. C'est exact, c'est la parole. Frères, vous ne vous rendez pas compte à quel point ces choses sont trompeuses. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que l'Antichrist serait tellement proche que ça séduirait même les élus. Il a dit, « Maintenant que personne ne vous séduise. » Il a dit, « Ne soyez pas comme les païens qui ne cessent de répéter leurs prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie et bénissez-le. » Il a dit, « Ne soyez pas comme les païens qui multiplient de vaines paroles. » Il a dit, « Et n'appelez personne votre Père sur cette terre, non plus, ni, car vous avez un seul Père, et c'est dans les cieux. Mais vous vous retournez, vous n'en tenez aucun compte, vous le faites quand même, parce que c'est populaire. Le diable, la popularité, a toujours été son affaire. Ça a toujours été comme ça depuis le commencement, une forme de religion. Cain avait la même chose. Voici son esprit qui agit ici même, à travers l'Antichrist. Et voici aussi Abel qui vient, celui qui a été tué. » C'est vrai. Remarquez et regardez là. Tous ces animaux là-bas se sont tous réunis en une seule bête ici, qui était appelée le dragon rouge, le diable. Maintenant, prenons le verset 15 du chapitre 13. Vous voyez maintenant que cet homme était le trône de Satan. La bête a 7 têtes avec les 10 cornes. Elle se tenait près de l'enfant. L'enfant Christ, pour le dévorer dès qu'il naîtrait. Qui a fait ça? Hérode, Rome, ça a toujours été. Nous allons prendre Daniel tout à l'heure, si nous avons assez de temps, et si le Seigneur nous aide, et nous allons voir. com, c'est partout dans l'Écriture, depuis le commencement du monde païen, au tout début, dans la Genèse. Je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout le long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom de christianisme. Et c'est quand même de l'idolâtrie. Le grand saint Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Thessaloniciens ? Lisons-le avant d'aller plus loin. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et voyons ce que Paul dit ici. Il l'a même vu dans l'esprit, avant même que ça en arrive au jour dans lequel nous vivons. Oh là là, le jour où nous vivons, les ténèbres dans lesquelles nous vivons, et des hommes et des femmes qui avancent à tâtons dans les ténèbres païennes, et ils ne le savent même pas. Comme ça fait pitié. Ce jour, Paul a dit que ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Maintenant, regardez bien, il déclare que c'est un homme, pas vrai? Paul a dit, il est l'homme de péché, l'adversaire, qui s'élève tout au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de sorte qu'il est adoré comme Dieu. Un homme adoré comme Dieu, un homme qui serait mis ici comme forme d'adoration. Et il a dit que ce jour-là ne pourrait pas venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un état de tiédeur de l'Église. Très bien. Écoutez, je vais vous le lire, si vous voulez bien. 2 Thessaloniciens. Très bien. Je peux prendre tout de suite le bon endroit pour commencer, pour qu'on n'ait pas trop à lire. Que personne ne vous séduise. Verset 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. L'âge de l'église de Laodicée maintenant. Et que l'homme, H-O-M-M-E, singulier, l'homme de péché, n'ait été révélé, le fils de perdition, à la place, au lieu du fils de Dieu, fils de perdition, qui se pose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, si bien qu'il est adoré comme Dieu, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Il reçoit des confessions. Ne me dites pas, mon ami catholique. Comment vous dites que vous ne croyez que dans un seul mariage, que l'Église catholique parle d'un seul mariage? Si vous n'avez pas d'argent, là, d'accord. Mais je vais vous dire, ici même, parmi les miens, une jeune femme est assise ici même, une maman est assise ici, et le papa aussi, et une autre femme ici, avec ce petit garçon. Cette fille avait épousé un garçon protestant. Ils se sont séparés et sont allés chacun de son côté. Alors ensuite, bien vite, la fille a voulu épouser un garçon catholique. Et elle a dû aller payer une grosse somme d'argent et revenir. Et elle n'a pas été mariée à ce garçon protestant, pour commencer. Il y a ici Howard, ma propre famille. Eh bien, pas loin d'ici, je ne la nommerai pas. Elle a une fille. Et la fille a à peu près 26 ans. Son mari, elle l'a quitté là-bas, à Milltown. Elle est partie épouser un catholique. Et là, ils ont dit, il doit quitter l'église. Alors, ils ont payé tant d'argent pour en venir à la rendre vierge de nouveau. Elle a remarié à cet homme. Foutaise! La rendre vierge de nouveau? Elle est mariée aux yeux de Dieu. Elle vit dans l'adultère. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi dit le Seigneur aussi. C'est vrai. Quelle honte! Verser tant d'argent! C'est comme ça qu'ils ont pu construire toutes ces grandes églises et ces grandes écoles. C'est comme ça, le monde entier. Vous ne le savez pas, ici aux États-Unis. Vous devriez m'accompagner outre-mer une fois, et vous verriez. Oui, monsieur, allez là-bas, frère, là où ils ont la haute main. Je peux vous apporter une photo authentique. Frère Kopp vient de la prendre, et me l'a envoyée, d'un prédicateur protestant, un prédicateur du Saint-Esprit, étendu dans la rue, enflé, presque gros comme ça. Lui et son épouse, et une petite fille, tout enflé comme ça, parce qu'ils avaient prêché Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, et que les gens pouvaient être sauvés et recevoir le Saint-Esprit. On les a assassinés en pleine rue, et on n'a pas permis qu'ils soient enterrés. Et on a craché sur eux pendant des jours et des jours. C'est vrai. En plein là, où frère Osborne a dû être gardé avec des fusils pour les faire sortir. Ils sont allés là-bas et un groupe de prêtres se sont rassemblés. Ils ont assassiné ce jeune homme. Et son épouse venait d'avoir un bébé. Elle marchait dans la rue, comme ça, avec une escorte pour l'accompagner jusqu'à la tombe, pour l'enterrer. Et cette mère marchait avec un bébé en pleurant derrière son mari mort. Et des gens ont regardé par la fenêtre, des gens au cœur honnête. Et ils ont dit, si c'est comme ça que l'Église catholique voit ça, nous abjurons. Ils ont suivi par milliers dans la rue. Frère Osborne a eu un réveil là-bas, au point qu'ils n'ont pas pu l'expulser du pays. Il y avait trop de monde. C'est tout à fait vrai. Oh, l'hypocrisie! Je sais que c'est un tableau sombre, mais restez bien tranquilles, mes amis catholiques. Nous allons en avoir pour l'autre côté dans quelques minutes. Très bien. Remarquez. Maintenant, nous allons avancer. Remarquez. Encore un peu. Je vais vous dire ceci. Peut-être que j'aurai le temps. Il me reste encore 30 minutes. Soyez bien attentifs. Maintenant, faites un retour en arrière. Chaque lecteur, en pensez pour un instant, pour vous donner le tableau dans votre esprit. Quand tout croyant orthodoxe ici sait que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Pas vrai? Tout croyant orthodoxe sait ça. Et le roi Nebuchadnezzar a une vision. Et Daniel lui en a donné l'interprétation. Pas vrai? Et c'était la tête d'or, ce qui étaient les Babyloniens. Au second, il y avait les Mèdes et les Perses. Après ça, il y avait l'Empire grec. Ensuite, l'Empire romain. Et à la fin de l'Empire romain, Jésus-Christ était la pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui est arrivée en roulant, qui a fracassé la statue. Pas vrai? Et qui a rempli la terre. Tout le monde sait ça. Tout croyant sait ça. Et comment, dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former tous ces différents royaumes, et ainsi de suite, jusqu'aux orteils, qui étaient de fer et d'argile. Et ça veut dire, le prophète a dit, « De même que tu as vu que le fer et l'argile ne s'allient point, ceux-là ne seront pas non plus unis l'un à l'autre. Mais ils vont mélanger ces semences, essayer, autrement dit, ils s'uniront avec eux par des mariages, en essayant d'élever leurs enfants pour briser ça. » Les puissances, comme ça. Et vous savez que c'est la vérité. Mais ça a une emprise, et vous pliez devant ça. Oh, vous dites, c'est merveilleux. Regardez ce Stevenson, ou comment il s'appelle déjà, ici. Là, il, ici, comment s'appelle-t-il? Ça m'échappe. Ce type, ici, qui fait toutes ces histoires, par ici. Oui, oh là là. Ces États-Unis sont pourris jusqu'à la moelle. Oui, monsieur. Je peux vous prouver qu'au moment même où cette femme ici, dans Apocalypse 12, quand son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu, et quand il l'a fait, la femme s'est enfuie dans le désert, où on s'est occupé d'elle pendant 1260 jours. Exactement, jusqu'à la date de Plymouth Rock, exactement, quand l'Église est venue ici pour avoir la liberté de religion, et qu'elle s'est établie ici. Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse, ici. Et regardez ici, au verset 15. Et un petit instant là, je veux revenir avant ça. Et ici, nous allons voir qu'il se tenait là, au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où... Le verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre. » Alors la masse et les foules de gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y avait pas de gens, les États-Unis, qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux cornes semblables à celles d'un agneau, pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique, bien sûr. Vous voyez, le voilà. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de religion, d'abord. Il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans, vous savez. Il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique et à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite. qui séduit les nations par ces choses. Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Et vous, les protestants, qui étiez tendus là-bas, profondément endormis, en train de lire un magazine sentimental au lieu de lire votre Bible, en train de traîner quelque part, un jour de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière, en train de faire des histoires pour des futilités qui n'ont pas plus d'importance que ça. Vous devriez être quelque part à genoux si vous savez ce que signifie l'éternité. Remarquez, quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas au commencement, quand l'âge des nations a été inauguré, regardons bien comment il a commencé et de la manière qu'il a commencé, vous verrez qu'il se termine de la même manière. Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce pour les nations et une fin de ce temps, pas vrai? Remarquez bien, là, quand le roi Nebuchadnezzar, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte humiliés et pliaient devant les Romains ou devant les Babyloniens. Mais il y avait là quatre hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu en leur cœur de servir Dieu. Et puis, quand on avait jeté Shadrach et ainsi de suite dans, et Daniel était devenu un grand homme, et aux yeux du roi Nebuchadnezzar et du roi Belshazzar, et ainsi de suite. Quand il est devenu un grand homme, remarquez bien là, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or, et l'a dressée dans un champ, et il a déclaré que tout le monde allait devoir se prosterner devant cette statue. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent? Qui cette statue représentait? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'esprit des dieux païens? Et c'est comme ça chez nous aujourd'hui. On en a 3 ou 4. Les esprits des dieux habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas dans le tableau à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse aux lions ou brûlé dans la fournaise ardente ou quelque chose, une punition. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui, à adorer, ainsi de suite. Vous vous souvenez, dans le livre des martyrs de Fox, on tenait un crucifix devant eux. On leur attachait un bœuf à chaque bras, comme ça. Et ils disaient, si vous ne vouliez pas abjurer, abjurer le protestantisme et vous faire catholique et baiser le crucifix. On faisait avancer un bœuf dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et on les écartelait, on les brûlait au bûcher. Ils ont tout fait. J'ai été aux anciennes catacombes. Je sais de quoi je parle. Et vous voyez, c'est vrai. Et ils reposent là. Et remarquez comme ils ont traversé cette époque des martyrs, avant Martin Luther. C'est conforme à la Bible aussi. Maintenant, remarquez bien encore, là, il y a une grande chose que je veux vous faire remarquer. Comment le royaume babylonien s'est-il démembré? Un soir, quand ils sont allés prendre les vases sacrés de Dieu, et qu'ils se sont mis à boire du vin dedans. Ils se sont mis à se payer du bon temps. Et ils ont fait venir plein de femmes là-bas, des concubines. Et ils dansaient, ils faisaient la fête. Et ils se payaient du bon temps. Pas vrai? À ce moment-là, une écriture est apparue sur le mur. Mene, mene, tekel, upharsin. Pas vrai? Et ils sont allés chercher tous leurs chaldéens, leurs hommes intelligents, les membres d'église tiède. Et aucun d'eux n'a réussi à la lire. C'est vrai? Mais ils avaient là un homme qui savait lire les langues inconnues. Alléluia! Qui savait les interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Il savait interpréter les langues inconnues. Voilà ce qui en a marqué la fin. Voilà ce qui en marque la fin en ce moment. Alors que la puissance du Saint-Esprit est sur un peuple qui est rempli du baptême du Saint-Esprit, qui a la puissance, les signes et les prodiges. Voilà la fin de l'Église des nations. Voilà le reste. Voilà comment ça a commencé. Et voilà comment ça se termine. Exactement. De se plier de force à une religion à moitié païenne. Et Dieu entre en jeu au moment crucial, écrit dans des langues inconnues. Et cet homme l'interprète. Il savait interpréter. Il ne connaissait pas cette langue. personne d'autre ne la connaissait. Mais le même Saint-Esprit qu'il avait, qui lui a donné d'interpréter ça, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'Église aujourd'hui. Vous appelez cela du fanatisme. J'admets qu'il y a beaucoup de ça. Mais frère, il en existe aussi un qui est authentique. C'est vrai, un qui est authentique aussi. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut, en plein sur le chemin, pour vous troubler. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible et à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. Avancez-vous là et dites, « Oh Dieu, peu m'importe combien d'attrape-nigauds tu as mis là-bas, je vois que ta Bible dit et je suis fermement décidé. » C'est vrai, tu me l'as promis à moi, la postérité d'Abraham. Si Dieu vous a appelé, vous y viendrez. Mais sinon, peu m'importe combien vous êtes religieux, vous êtes fini, c'est tout. Vous ne pouvez pas venir, personne ne le peut, à moins qu'il ne vous ait appelé. Et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais beaucoup d'entre vous périront, parce que vous ne vous en souciez pas assez. Et vous irez là, et vous verrez quelque chose qui a l'air un peu fanatique, un peu obscur. Eh bien, le docteur Antel a dit telle et telle chose, et ainsi de suite. Et puis, vous vous retournez et vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous savez que c'est vrai, et ce ne sera jamais pardonné. Vous allez voir dans quelques minutes ce qu'est la marque du diable, ce qu'est le sceau du diable, la marque de la bête. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Regardez bien cette première église, ce qu'ils ont fait. Fais bien attention à ça, seconde église. Vous pourriez vous sceller à l'extérieur du royaume de Dieu et dans celui du diable, là-bas où il n'y a pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, assurément. Donc, faites attention, marchez avec respect. Faites attention à ce que vous faites, car vous ne savez pas ce qui va arriver. Voilà, nous voyons tout ceci s'accumuler maintenant. Il me reste 20 minutes. Je veux que vous preniez avec moi le chapitre 17 d'Apocalypse, pour terminer dans quelques instants. Maintenant, nous allons nous diriger vers le but. Écoutez bien, lisez avec moi, ouvrez votre Bible et préparez-vous à lire. Ça devrait mettre le point final. Rappelez-vous, il y a deux marques. L'une, c'est l'apostasie. L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'une est la marque du diable. Rappelez-vous, j'ai dit que l'Église catholique primitive. Maintenant, vous les catholiques, restez assis avec respect quelques instants. L'Église catholique primitive s'est forgée sa propre opinion là-dessus. Ils avaient une fausse doctrine de la Sainte Eucharistie, de prendre une hostie au lieu du baptême de l'Esprit. Les protestants adoptent une poignée de main ou un engagement. Les deux sont faux, d'après la parole de Dieu. C'est ici le plan. Ils vont baptiser Père, Fils, Saint-Esprit, alors qu'il n'y a absolument pas une seule fois où qui que ce soit ait jamais été baptisé comme ça, ce qui est un baptême tout à fait païen, catholique. Et ils l'admettent et ils disent, « Vous, les protestants, vous vous pliez à notre baptême. » J'ai dit, « Pourquoi le faites-vous » Il a dit, « L'Église catholique a le pouvoir de changer les passages de l'Écriture qu'elle veut. » J'ai dit, « C'est un mensonge. » Il a dit, « Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous y pliez ?» Ah, là, ça vous ferme la bouche. Pas moi, je n'y crois pas. Ceci est la parole de Dieu. C'est vrai. Si des gens veulent suivre, ils devront y aller tout seuls. Moi, je dois dire la vérité. C'est vrai. Remarquez, là, ils se sont retrouvés avec toutes ces autres choses. L'Église, de se joindre à son vieux catéchisme et toutes ces choses-là. Que de bêtises et d'absurdités. Et ça a produit des milliards d'infidèles, froids, formalistes, c'est du diable au départ. Et je peux vous prouver ce que la Bible dit ici. Toute la terre était dans l'admiration devant la puissance de cette bête, qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra. Comment est-ce possible? Était et n'est plus. Il a dit, le monde entier était en admiration devant elle. Quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Le système de Rome a pris fin. Quand un nouveau roi arrivait, il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. Si un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. La bête qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra. Qui n'est plus, qui reparaîtra. Qui, et ira à la perdition. Ainsi dit le Saint-Esprit par l'Écriture. Maintenant, écoutez, puis un des... Soyez tous attentifs, là, chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint. Ce sont les dernières coupes qui sont déversées. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Regardez bien, Apocalypse 12, c'était une vierge, c'était une vraie dame. Elle se tenait là, très belle. Mais en voici une qui est appelée une prostituée, P-R-O-S-T-I-T-U-E-E. Ça veut dire une... Qu'est-ce que c'est? Idolisons-le ou analysons-le. Excusez-moi, je finis par aller trop vite, à penser qu'il me reste 15 minutes. Je vais prendre une heure de plus dans ce cas-là. Alors, restez bien tranquilles. Regardez, très bien. Regardez, analysons bien ça. C'est une femme impure. Qu'est-ce qu'une prostituée? Je n'aime pas prononcer ce mot, mais il est écrit ici dans la Bible. C'est une femme qui prétend être une femme bien et qui commet l'adultère avec d'autres hommes. Maintenant, si la femme représente l'Église, alors c'est une Église qui se prétend chrétienne et qui commet l'adultère avec d'autres choses. Pas vrai? Et elle est assise sur les grandes eaux, la masse et les foules de gens. Lisez-le vers le verset 15 et vous verrez ça, vous voyez, ou le 17e, quelque part par là. Nous allons y venir dans un instant. La femme qui est assise sur les grandes eaux, la prostituée, comme c'est saisissant. Maintenant, si nous avions des jours et des jours, je pourrais prendre cette femme et la suivre de Caïn jusqu'à la venue du Seigneur Jésus et vous prouver qu'elle a été la première à organiser une église. Elle est la mère de l'organisation. Regardez bien, et la femme qui est assise sur les grandes eaux, assise sur les grandes eaux. Le verset 2 maintenant. Elle, que les R-O-I-S, rois de la terre, se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Autrement dit, elle prétend être une église chrétienne, imposante, belle. Regardez bien, dans quelques minutes, comment elle est habillée de perles, d'or et de pierres. Ils disent, qui lui est semblable? Et elle tenait une coupe dans sa main, remplie du vin de son impudicité. Sa souillure, sa doctrine, par laquelle elle faisait que les rois, oh, n'aient qu'à faire dire une petite prière pour vous faire sortir du purgatoire par des prières, et toutes ces choses, c'est ça, voilà, c'est la parole de Dieu que je lis. Regardez, et il me transporta en, maintenant, voyons voir, peut-être que vous voulez, c'est ça, le verset 3, là. Très bien. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, riche, l'église la plus riche du monde. Ici, il crie, « Qui peut combattre contre elle? Il n'y a qu'un homme au monde, un seul homme au monde, dans le monde entier. » qui a la puissance, comme l'a montré la vision du roi Nebuchadnezzar. Ses 10 orteils se retrouvent dans tout ce filet de fer romain, se retrouvent dans toutes les nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait autant son mot à dire que le pape à Rome. Aux États-Unis, le président Eisenhower peut parler, et ça fait loi, mais dans d'autres pays, il peut parler, et ça ne compte pas. Mais la hiérarchie catholique peut parler à Rome, et toutes les nations vont l'acclamer. C'est vrai. Le voilà. Maintenant, nous allons voir où il en est et voir si c'est lui ou pas. Voir si c'est bien lui qui est décrit ici. Très bien. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, riche, pleine de noms de blasphème. Un faux baptême, une fausse économie. Elle conduit les gens aveuglément. Elle leur dit qu'ils peuvent se contenter de venir à l'église, de faire leur confession et ainsi de suite, de réciter un « Je vous salue Marie », de faire pénitence. Ignorance, absurdité. Je ne vois pas comment des gens, des citoyens honnêtes, sensés, peuvent croire des choses pareilles. Ayant sept têtes, vous y revoilà, ce même démon qui est partout, le dragon rouge, la bête et tout, avec 7 têtes, 10 cornes. Et la femme là, l'Église. Or, la bête, c'est la puissance qu'elle avait. L'Église catholique romaine, mais la puissance catholique romaine. Mais ici, c'est l'Église qui parle maintenant. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie de l'abomination et des impuretés de sa prostitution. La voilà, une église que vous connaissez, n'est-ce pas? Elle doit être là, c'est sa description. Continuons à lire et nous verrons qui elle est. Et sur sa tête était écrit le nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées, l'abomination de la terre. Très bien, protestants, c'est là que vous allez être mis au pied du mur. Vous admettez bien qu'elle est une prostituée, mais elle était la mère de quoi? De fils? De prostituée. Donc, ce sont des femmes, pas vrai? Ce sont des églises, alors, pas vrai? Elle est l'église mère, alors, n'est-ce pas? D'où est venu Martin Luther? Du catholicisme. D'où est-ce que toutes celles-ci ont éclos? Du catholicisme, en apportant la même doctrine qu'ils avaient. Et vous vous y pliez. Maintenant, la femme la plus vile de Jeffersonville peut enfanter une fille bien, authentique, vierge, c'est vrai. Et elle peut marcher droit si elle le veut. Et c'est pareil pour l'église luthérienne, méthodiste, baptiste, presbytérienne, et ainsi de suite. Elles ont marché droit pendant un moment, quand leur fondateur était là, à leur prêcher l'évangile. Mais maintenant, ils vont à des spectacles, à des soirées dansantes, ils regardent la télévision. Ils fument, ils font tout le reste. Vous savez que c'est la vérité. Ils restent chez eux le dimanche. Qu'est-ce que c'est? C'est que votre prostituée agit comme sa maman. Exactement, exactement. Maintenant, voyons de quoi il retourne. La Bible dit qu'elle était la mère des prostituées. Et tout le monde sait que c'était la Rome païenne, ou Madame la Rome papale, l'Église catholique. Dans un instant, je vais vous le montrer. Ça la place positionnellement sur la terre, exactement où elle sera assise. C'est vrai. Où elle se trouve et qui elle est. La Bible l'a dit, pas moi, la Bible. Et elle a dit qu'elle a enfanté beaucoup d'églises filles après elle. Très bien. Maintenant, les méthodistes et les baptistes et les luthériens et ainsi de suite. Vous voyez où vous en êtes, là? Une mère des prostituées. Elle vivait comme il faut, mais quand la lumière a commencé à briller, c'est comme une bande de blattes en été. Allumez la lumière sur le chemin, là où une blatte est en train de ronger un vieil épi de maïs ou quelque chose comme ça. Allumez la lumière et vous les verrez chercher à se cacher aussi vite qu'elles le peuvent. Prêcher l'Évangile ou le baptême du Saint-Esprit à beaucoup de ces vieilles églises formalistes, impies, et regardez-les. Nous ne croyons rien de tel. Je ne crois pas à... Pourquoi? Vous savez ce que vous êtes au départ. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je ne dis rien contre votre église. Frère, vous avez des gens là-dedans qui sont des perles. Je ne dis rien contre les catholiques. J'aime les catholiques autant que j'aime les gens du Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous, mon ami, que j'essaye de crier. Ce n'est pas vous, les méthodistes et les baptistes et le Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous que je crie. C'est après le péché que vous laissez le diable vous faire commettre. Simplement parce que vous allez à l'église, vous pensez que vous êtes sauvé. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera aucunement dans le royaume. Et quand vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est très direct, frère. Mais en fait, ça sort directement de la Bible. Jésus n'a jamais dit, peut-être que ces signes en accompagneront certains. Il a dit, ils les accompagneront. Oh, ils disent, ça, je crois que c'était pour les apôtres. Je crois qu'il n'y a eu qu'un groupe d'apôtres. Et c'était là-bas, au commencement. Et notre leçon même d'hier soir, il avait dans sa main 7 étoiles. Et chaque étoile devait être donnée à chaque âge de l'Église comme lumière. C'est ça. Tout comme il y a un apôtre là, il y a un apôtre là, et un apôtre là, et un apôtre là, qui était cet esprit au début de notre leçon, qui se tenait devant Dieu pour être envoyé aux 7 âges de l'Église. Oh, frère, vous pouvez vous promener avec une petite doctrine baptiste ou méthodiste et vous en tirer avec ça, mais considérez-le seulement une fois du point de vue de la Bible. C'est vrai. Amen. Je me sens pas mal religieux en ce moment. Amen. Oui, monsieur, regardez. Voilà, frère. Ça fait mal, mais une correction, ça ne vous fait pas de bien. Maman, qui est assise là, au fond, elle me faisait prendre de l'huile de ricin. On était tout gamin. On devait manger du pain de maïs et des haricots bruns tous les jours de la semaine et le dimanche aussi. Toujours est-il que je devais prendre beaucoup de médicaments. Le samedi soir, elle me faisait toujours prendre de l'huile de ricin. Alors, le samedi soir, je me pinçais le nez, comme ceci. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Je me pinçais le nez et je disais, « Maman, je ne peux vraiment pas prendre ça. Ça me donne trop mal au cœur. » Elle disait, « Si ça ne te donne pas mal au cœur, ça ne peut pas te faire de bien. C'est pareil pour ceci. Ça vous remue. Ça fera fonctionner votre appareil digestif comme il faut pour que vous puissiez vraiment digérer le plein évangile. » Les luthériens sont arrivés avec la justification. Oh, ils étaient vraiment... Ils avaient tout organisé ça. Oui, monsieur, nous sommes l'Église. John Wesley a vu la sanctification. Il a dit, je vois qu'il en est autrement. Et il a dit, c'est très bien Luther, mais voici ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il était? Luther était l'étoile de son âge à lui. Mais voici Wesley. Très bien. Bon, alors, tous les luthériens ont été mis au rencard, parce qu'ils avaient oublié. Là, ce ne sont pas tous les... Je veux dire, l'Église luthérienne. Les luthériens ont encore des hommes bien, remplis du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais là, ils se sont tous retournés vers l'Église, dans cet âge-là. Très bien, voici Wesley qui arrive. Il les a fait traverser son âge à lui. Ensuite, bien vite, sont arrivés... Après l'âge de Wesley, sont arrivés les pentecôtistes. Ils ont reçu le Saint-Esprit, le parler en langue. Oh là là, les méthodistes et les nazaréens et ceux de la sainteté, ils disent, « Oh, c'est le diable !» Et vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et vous voyez où vous en êtes aujourd'hui? C'est vrai. Vous, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est sûr, vous l'avez fait. Et vous avez négligé de marcher dans la lumière. Et maintenant, vous, les pentecôtistes, vous êtes devenus si tièdes, cet âge de l'Église de Laodicée, que Dieu vous vomit de sa bouche. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vous dites, croyez-vous au parler en langue? Oui, monsieur. Avez-vous déjà parlé en langue? Oui, monsieur. Je loue Dieu pour ça. Oui, monsieur. J'ai parlé en langue plusieurs fois. Et je crois que c'est la puissance de Dieu. Oui, seulement, je ne crois pas que le parler en langue, ce soit le signe initial. Mais je crois qu'il y a une puissance de Dieu qui vous fait parler en langue, des signes et des prodiges qui doivent suivre. Oui, monsieur. Et puis le diable a mis une espèce d'épouvantail là-bas, quelqu'un qui imitait et qui faisait semblant d'avoir le Saint-Esprit. Et vous tous, les pèlerins de la sainteté, et ceux de la sainteté, et les nazaréens, et vous tous, vous avez regardé ça et vous avez dit, « Ouh, je ne veux pas de ça, ouh !» Oh, miséricorde, si vous aviez eu le Saint-Esprit ou une partie de Dieu au fond de votre cœur, sanctifié comme vous auriez dû l'être, vous auriez reconnu que c'était la puissance de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, « Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez aussi connu ?» Bien sûr. Si la sanctification est la partie du Saint-Esprit qui vous a nettoyé et sanctifié, si vous avez cela, vous en reconnaîtrez le reste quand il viendra. Cette main-ci reconnaît cette main-là, la tête ici, reconnaît le pied ici. C'est une partie du corps. Et la Bible dit qu'il y a 9 dons spirituels, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pros, ainsi de suite. Et l'interprétation des langues, le parler en langue, la guérison divine, et il va les reconnaître tous. Oh, vous figez, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Il commence à faire chaud par ici, n'est-ce pas? C'est la vérité. Pourquoi? Vous étiez organisé, votre Église l'avait dit, et c'est la raison pour laquelle vous ne pouviez pas le faire. Mais beaucoup d'entre vous, les méthodistes, vous êtes sortis et vous avez reçu le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous, les baptistes, vous êtes sortis et avez reçu le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Vous, beaucoup d'entre vous, les gens de la sainteté, vous êtes sortis et vous avez reçu le Saint-Esprit. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas occupés de ce que l'Église disait? Vous avez marché dans la lumière. Amen. Vous ne vous êtes pas occupés de ce qui se passait. Vous saviez que c'était du Seigneur et vous n'avez fait qu'y marcher. Laissez la vieille bonne femme en arrière, leur vieille maman. Elle agit comme sa mère, là-bas, une prostituée. Elle s'est organisée. C'est la source même, à l'origine du problème, quand l'Église catholique s'est organisée. Ensuite, l'Église luthérienne s'est organisée après elle. Ensuite, l'Église méthodiste s'est organisée après elle. Ensuite, l'Église baptiste s'est organisée. Et maintenant, il y a 696 organisations différentes. Et la Pentecôte a fait pareil. Gloire! Qu'est-ce qu'il y a? Dieu prouve qu'il n'est pas dans une organisation. Il est dans l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia! Oui, monsieur, votre organisation, ça lui est bien égal. C'est absurde, c'est lié au catholicisme. Ça y retourne et ça y reste. Et vous recevez la même marque qu'elle. L'ange n'a-t-il pas dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez point à ses péchés, et je vous recevrai. Ne touchez pas à sa souillure, et je vous recevrai. » C'est le Saint-Esprit qui parle. Et quiconque prendra la marque de la bête ou la lettre de son nom, j'aimerais qu'on ait le temps d'étudier ça. Mon temps est écoulé. Qu'est-ce que la lettre de son nom? Le protestantisme. Faisons-nous une image qui lui soit semblable. Faisons-nous une organisation. Notre Église est aussi grande que l'Église catholique. Ils ont pris toutes ces choses. Ils avaient leurs grandes églises. Et nous aussi. Nous avons autant de bourgeois de la ville dans notre Église qu'ils en ont dans la leur. Faisons-nous une image de la bête. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'elle est une prostituée. Et l'autre, une prostituée par l'organisation. Mais l'Église du Dieu vivant est libre. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Sortez de là. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. Les hommes rendent l'âme de terreur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Amen. Du train où vont les choses? Il a dit, dans les derniers jours, ne crains point un petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, assis ensemble dans les lieux célestes. Et vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, qui vous êtes moqués de la Pentecôte. Et je vous le dis, la Pentecôte a besoin d'une bonne fessée de l'Évangile, à l'ancienne mode, parce qu'ils se sont organisés. Les assemblées de Dieu, elles-mêmes, sont entrées dans le gros de la Pentecôte. Elles se sont jointes à la Ligue des Églises, aussi formaliste et indifférente que possible. Et la pire façon de traiter le Saint-Esprit que j'ai vu, pratiquement, provenait d'un prédicateur pentecôtiste. Alors, n'allez pas croire que parce que vous êtes membre d'une église pentecôtiste, vous êtes sauvé. Vous n'êtes sauvé que quand vous êtes réellement baptisé de l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, uni avec lui dans la puissance de sa résurrection, avançant avec des signes et des prodiges qui accompagnent l'Esprit partout où il va. Les signes ont accompagné les prophètes. Les signes ont accompagné Jésus-Christ. Les signes ont accompagné les apôtres. Il a dit, voici les signes qui les accompagneront jusqu'à son retour. Est-ce que c'est dit là, frère Branham? Allez par tout le monde et prêchez cette puissance et cette démonstration à toutes les nations. Et il en manque encore les deux tiers qui ne l'ont jamais entendu. Et voici les signes qui les accompagneront. Eux, toutes les nations. Gloire! Oh là là! Vous pensez peut-être que je suis fou. Frère, je vous le dis, j'aime cette religion du bon vieux temps. Oui, monsieur, ça vous ancre en Christ. Maintenant, vous voyez ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de se dire que, eh bien, je suis membre de l'Église et je suis tout aussi bon qu'un autre. Ne suis-je pas membre de cette Église? Et vous rendez-vous compte d'où l'organisation de votre Église sur laquelle vous vous reposez, d'où elle vient? Vous rendez-vous compte? La Bible a dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou la main, c'est-à-dire connaissance ou action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Et regardez-le bien et voyez ce qu'il connaît de l'Écriture. Écoutez-le et voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui, dit la Bible. Voyez, voyez. Regardez bien où il va. Regardez bien ce qu'il fait. Il dit, eh bien, je suis membre, je suis protestant. Oui, monsieur, je suis membre de telle et telle église. Oui, monsieur. Et le dimanche, c'est tout juste si vous la respectez assez pour y entrer quand il pleut. Il descend. Au lieu d'aller à la réunion de prière, vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va, là, et il boit. Et il fait n'importe quoi. Il se conduit comme le reste du monde. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous, c'est la marque du péché. Maintenant, continuons à lire un peu plus loin, rapidement, et ensuite je terminerai. Nous avons dépassé l'heure. Lisons le verset 6 maintenant. Et je vis cette femme, là, l'Église, ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Vous savez, la Bible a dit, quand elle a été détruite, que chaque mortel qui est mort sur la terre, c'est l'Église catholique qui en a été trouvée coupable. Exactement, le commencement. Et du sang des témoins de Jésus. Et c'est Jean qui parle là. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean a dit, maintenant, regardons ici. Jean a dit, je la regardais. Elle était tellement jolie, une belle, grande église. Elle avait tout un tas d'églises auxquelles elle avait donné naissance. Une mère de prostituées. Et je regardais là-bas. Et comment cette femme pouvait-elle? Elle répandait cette fausse doctrine, amenant tous les rois et les grands hommes à en être ivres. Et voici ces filles qui font la même chose. Mais je la regardais. Elle était tellement jolie. Il est dit, à un endroit de l'Écriture, « Je suis assise comme une reine et je n'ai besoin de rien. » Voyez? Et alors lui, Jean, a dit, « Je l'admirais. Je la regardais et je regardais avec beaucoup d'admiration. » Je l'admirais. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. » Maintenant, voyons voir si nous avions raison. Si nous avons raison pour ce qui est du catholicisme, alors vous savez que le protestantisme suit. Alors vous avez assez d'intelligence pour savoir ça. Vous voyez, regardez bien, la bête que tu as vue était, n'est plus, elle est la bête. Regardez bien, là, maintenant vous remarquerez ici qu'il est dit combien il y avait de rois, combien étaient tombés, qu'un doit venir. Elle doit monter de l'abîme. Ce n'est pas sur la Bible, c'est à partir d'un tas de superstitions qu'elle a été fabriquée. Ça n'a aucun fondement. Où allez-vous chercher le purgatoire? Où allez-vous chercher pas de viande? Et que les prêtres ne se marient pas? Et toutes ces autres choses qu'ils font? Les confessions? Où allez-vous chercher ça? Il n'y a aucun endroit, nulle part, où on puisse le trouver. Ça vient de l'enfer. La Bible a dit. Elle est sortie, la bête, la puissance, la doctrine qu'elle avait, sortie de l'abîme. Et elle va à la perdition. C'est où la perdition? C'est l'enfer. Elle retourne tout droit là d'où elle est venue. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Or, les églises protestantes disent, voyons, comment est-ce possible, ça, alors qu'ils disent, je crois en Jésus-Christ, il est mon sauveur personnel. Le diable croit aussi, frère. Ce doit être une régénération, une nouvelle naissance, être né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, votre nom est mis dans le livre de vie de l'agneau. Vous dites, Souvent, je me demande, eh bien, quoi? Ne suis-je pas aussi bon qu'un autre? Ne suis-je pas aussi bon que votre bande d'écervelés, d'exaltés? Je suis aussi intelligent. J'ai des diplômes. Je suis allé à l'université. Je viens d'une bonne famille. Ceux de ma famille étaient des membres d'église avant moi. Ne suis-je pas aussi bon que vous? Il est dit, le monde entier, les protestants et tout, s'étonna. Tous, sauf ceux dont le nom était écrit dans le livre. Pourquoi est-ce qu'il y avait des noms écrits? Ils sont la semence d'Abraham. Ils sont héritiers selon la promesse, élus avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'ils ne s'étonnent pas. Remarquez ici, regardez bien ce qu'il a dit là. Regardez bien ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. La sagesse est-elle l'un des dons du Saint-Esprit? Pas vrai? Tous ceux qui croient que la Bible, 1 Corinthiens 12, enseigne que dans les dons et tout, dans l'Église, il y a la sagesse, que c'est l'un des dons, faites voir. Eh bien, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de parler en langue dans ce cas-là? Comment dites-vous qu'il n'y a pas d'interprétation des langues? Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de guérison divine? Car le même corps, si je suis un corps, j'ai une main de ce côté-ci et une main de ce côté-ci, et un pied là. Comment pouvez-vous dire que la main en fait partie, pas le pied? N'avez-vous pas entendu ce que Paul a dit? Regardez bien, là, il parle dans les derniers jours, directement au corps. Il a dit, c'est ici pour celui qui a de la sagesse. Oh, j'aime ceci. Oh là là, voici quelque chose qui va vous surprendre. Écoutez ceci, très bien. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Si ces dons du Saint-Esprit n'étaient pas descendus pour l'âge tout entier, alors pourquoi a-t-il parlé de ceci pour les derniers jours? S'il ne doit pas y avoir de dons dans l'Église dans les derniers jours, alors pourquoi a-t-il adressé ceci aux derniers jours? C'est ici pour celui qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Combien de collines? Mais combien y a-t-il de villes au monde où une église est assise sur cette colline? Il n'y en a qu'une. Où est-ce? La cité du Vatican à Rome. Pas vrai? La Bible dit que cette affreuse prostituée qui a fait commettre l'impudicité au monde entier et qui a produit un tas de petites filles pour enseigner à peu près la même chose qu'elle. Elle n'était pas aussi mauvaise qu'elle, mais c'était des prostituées. Elle leur a enseigné la même chose. Il est dit, le commencement de cela sera une femme ou une église assise sur cette colline à Rome. J'ai cherché dans le monde entier. Dites-moi où elle est. Une église assise sur cette colline. Maintenant, je lis ceci dans la Bible. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Si nous prenions l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça, ces rois qui sont tombés à Rome, depuis le royaume de Babylone. Un existe, Néron. Un doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois, quand il sera venu. Et la bête. Ouh, regardez ceci. Maintenant, la puissance va prendre la place du paganisme. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Regardez bien là. Et elle est du nombre des sept. Vous savez tous combien il était un roi terrible. Il a attaché sa mère à un chevalet de bois et l'a traîné à travers les rues. Il a mis le feu à la ville pendant qu'il jouait de la lyre sur la colline. C'est la même sorte d'esprit qui domine l'Église, qui se trouve à la place du paganisme. Le huitième qui est du nombre des sept. Et puis, il est, et il n'est plus, et il est, et il n'est plus, et il est, et il n'est plus. Et ça continue. Et elle va à la perdition. Tout cela jusqu'au moment de la venue du Seigneur. Alors, il est jeté en enfer. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Oh, si seulement nous avions, non pas encore reçu de puissance. Ce ne sont pas des rois. Ils ne peuvent pas. Les cornes n'avaient pas de couronne. Ils ont reçu autorité comme rois. Qu'est-ce que c'est? Des dictateurs. Pas des rois couronnés. Des dictateurs. Oh là là. Bien. Oh, quand je lis ceci, parfois mon cœur bondit de joie. Très bien. Quand je pense que nous vivons ici au dernier jour, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Voilà la bataille d'Armageddon. C'est prêt pour le millénium. Parce qu'il est le Seigneur de seigneurs et le roi de rois. Ne soyez pas ébranlés. Et les appelés, les élus, ça ne vient pas de vous, c'est lui qui l'a fait. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devriez crier victoire. Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Si vous ne pouvez pas voir la lumière de l'Évangile, c'est que vous êtes aveugle, c'est tout. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Autrement dit, cette femme qui est assise ici, l'Église, elle va donner sa doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. Là voilà, elle les gouvernait. Elle est assise au-dessus d'eux, la puissance qui domine sur eux. Elle est assise sur 7 collines, vêtue de pourpre, la plus richement vêtue du monde. Là voilà. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Regardez bien, là, vous arrivez aux puissances du communisme. Haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alléluia! Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Regardez, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Montrez-moi une ville au monde qui a la royauté sur les rois de la terre, et de la manière que vous voudrez, en dehors de la hiérarchie catholique à Rome, assise sur 7 collines. Aucune ville, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais, en dehors de la nouvelle ville qui vient du ciel. C'est vrai. Bien, un petit instant. Je veux encore vous montrer ceci, pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir, alors que nous le lirons ensemble. Très bien. Regardez bien ici maintenant. Je lis le chapitre 13. Je commence au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image. Ça, c'est aux États-Unis, d'où nous avons vu s'élever, vous voyez, une image. Afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça, c'est le boycottage. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, regardez bien, là, attentivement, là, très attentivement, avant de terminer, le verset 18. Écoutez, c'est ici la sagesse. Vous voyez, le Saint-Esprit qui lance un appel aux croyants de ce dernier jour. Ce petit groupe-là, il parle, il fait appel au petit groupe de ce jour-ci. Que celui qui a de la sagesse dans l'Église, qu'il comprenne ceci. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas de nations, d'hommes, et son nombre est 666. Et au-dessus de la cité du Vatican, n'allez pas me dire maintenant, j'ai les réalités de notre foi et tout, vous voyez. Au-dessus de la cité du Vatican, et le pape se tient en tant que vicaire du Fils de Dieu. J'ai des amis catholiques, assis ici même, qui étaient catholiques avant, qui sont assis ici et qui savent que c'est la vérité. Ma famille, peut-être avant moi, était des catholiques aussi, voyez? Ils ont dit que Saint Patrick était catholique, alors qu'il n'a jamais été catholique. Ils ont dit que Jeanne d'Arc était une sainte, alors que les prêtres l'ont brûlée comme sorcière. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Vous blanchissez les sépulcres des prophètes, et c'est vous qui les avez mis là-dedans, espèce de muraille blanchie. » C'est vrai. Regardez bien, c'est le nombre d'un homme. Et au-dessus du pape, à Rome, il est écrit « Vicarius Filii Dei ». C'est écrit en lettres romaines. Écrivez-le vous-même demain. V-I-C-I-R-O. Continuez à l'écrire comme ça, en lettres romaines. Tirez une ligne et faites l'addition. Et vous verrez ce que vous avez. 666. Où est-ce qu'il est assis? Sur cette colline. Et c'est de là que vient l'organisation en matière de religion, qui a enseigné des dogmes au lieu de la Bible. Et les protestants sont issus de ça. Et ils font exactement pareil, parce qu'il est dit, là, qu'elle était une prostituée. Et qu'elles étaient des prostituées. Elle est sortie avec un faux baptême, avec une fausse religion, avec une fausse conception du Saint-Esprit, avec une fausse conception de l'enfer, et toutes ces choses, comme ça. Et les protestants ont suivi en plein dans ses traces. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est vrai. De l'eau, qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit viendra sûrement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Frère, je vous dis, ce sont les lumières du soir qui brillent. La même doctrine apostolique, le même baptême apostolique, le même remplissage du Saint-Esprit apostolique. Les mêmes signes et prodiges apostoliques sont en train de percer chez les nations, comme ils l'ont fait chez les Juifs, là-bas, à l'aube. Ici, c'est au coucher du soleil. Il y a des gens presque partout dont le cœur est tout enflammé du feu qui descendit à la Pentecôte, qui les a nettoyés, purifiés. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Pas vous? Viens, mon frère, chercher cette bénédiction qui nettoiera ton cœur du péché. Elle fera retentir les cloches de joie et enflammera ton âme à tout jamais. Oh, elle brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, pour ce glorieux évangile. Il est sanglant. Oui, il est sanglant. Comptez le prix. S'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, la mort, et qu'il me suive. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples, mort pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Le premier qui mourut pour ce plan du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste, mais il est mort comme un homme. Ensuite vint le Seigneur Jésus. Ils le crucifièrent. Il prêcha que l'Esprit sauverait les hommes du péché. Il y avait Pierre et Paul et l'apôtre Jean. Ils abandonnèrent leur vie pour que luise cet évangile. Ils mêlèrent leur sang avec les prophètes de jadis pour que la véritable parole de Dieu soit apportée avec droiture. Puis ils lapidèrent Étienne. Il prêchait contre le péché. Il les rendit si furieux qu'ils lui fracassèrent le crâne. Mais il mourut dans l'esprit. Il rendit l'âme. Et alla rejoindre les autres, ses frères porteurs de vie. Il est sanglant. Oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit a toujours été sanglant. Du sang des disciples, morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit a toujours été sanglant. Les âmes sous l'autel crient « Combien de temps encore ?» avant que le Seigneur ne punisse les malfaiteurs qui se moquent, vous voyez, oh là là. Mais il y en aura d'autres qui donneront le sang de leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot cramoisi. Il est sanglant. Oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est encore sanglant. Du sang des disciples, morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Tournons-nous, serrons-nous la main maintenant. Il est sanglant. Oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples, morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Aimez-vous le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te prions de bénir cet auditoire et puisse-t-il rentrer chez eux dans la joie. Puisse-t-il venir à la source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Puisse-t-il abandonner toute leur vieille manière de gens d'église et venir recevoir le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que Dieu soit avec vous.